France Inter.
Nous sommes le mardi 7 janvier 2025, soit pile 10 ans après l'attaque terroriste islamiste perpétrée contre le journal satirique Charlie Hebdo en 2015, dans laquelle 12 personnes trouvèrent la mort, dont 8 membres de la rédaction. De cette tuerie réchappèrent 11 blessés, dont 4 très grièvement, ainsi que des êtres intacts physiquement, mais meurtris intérieurement. Parmi ces derniers, l'ancienne avocate et chroniqueuse judiciaire pour Charlie Hebdo, Sigolène Vinson, également écrivaine, actrice et conseillère municipale de Martigues, déléguée à l'étang de Berre et à sa candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ce n'est pas un détail, c'est au contraire le symbole d'une pulsion de vie, nous en parlerons. D'ailleurs, bien que s'inscrivant dans une journée spéciale de la chaîne, l'émission ne sera pas uniquement consacrée au drame. Nous l'évoquerons bien sûr, mais nous nous tournerons du côté de la vie et de la résistance, avec l'autrice des polars Bistouri Blues et Double Hélice, coécrit avec le docteur Philippe Kleinman. De l'autofiction « J'ai déserté le pays de l'enfance » qui revient sur ses jeunes années à Djibouti où son père était coopérant expatrié pour EDF, et des livres « Maritima »,« Les jouisseurs »,« Le caillou » ou encore « La palourde ». L'occasion de faire plus ample connaissance avec un être ayant trouvé refuge dans la mer et dans l'écriture. Ce soir donc, ode à ce qui rattache à la vie et à la création. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Sigolène Vinson.
Bonsoir Eva.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmée ?
Le vol et le plongeon d'un cormoran dans l'étang de Berre, il y a 4-5 jours.
À quoi ça ressemble ? C'est gracieux ou ça fait plouf et c'est rigolo plutôt ?
Non, c'est le vol du cormoran n'est pas très gracieux, mais son plongeon l'est. Oui. Et ce qui est plus gracieux encore de la part du cormoran, c'est quand il fait sécher ses ailes au vent et au soleil. Ouais.
Are you the boy who wanted to dance?
Yes, I am. Come on.
My mother said not too far away.
My mother said. Were you born yesterday?
You're making fun of me.
Tell me your name, young lady. And then it'll be easier to talk.
I'm called Solveig. And you?
Peer Gynt.
Il paraît, Sigolène Vinson, que petite, vous jouiez avec votre père, ingénieur et amateur de théâtre, la pierre Peer Gynt de l'auteur norvégien Henrik Ibsen sur une musique d'Edvard Grieg, qu'on entend interpréter par l'orchestre de la Suisse romande et l'ensemble vocal Le Motet de Genève. Dans quel cadre faisiez-vous ça ? C'est rare de jouer au théâtre petit avec ses parents ?
C'était à Djibouti, le centre culturel Arthur Rimbaud. Et mon père était le jeune premier de la troupe amateur, enfin la seule troupe peut-être même de Djibouti. On avait un très beau théâtre en plein air avec trois niveaux de scène, le théâtre des Salines. Et tous les soirs, pendant que les pièces se jouaient, il y avait un âne qui se mettait à braire, toujours au même acte.
Un acteur, donc.
Et oui, j'étais la petite Helga, la sœur de Solveig, et mon père était Pierre. Et voilà, donc j'ai joué sous le ciel djiboutien, j'ai joué cette pièce venue du Nord.
Vous auriez voulu être Laurent Terzieff ou Natacha Kinski, donc au-delà du sexe, pour la beauté ou pour le talent d'acteur ?
Pour les deux, et ils ont quelque chose quand même... de commun dans le physique, c'est cette bouche presque carnassière, pleine de dents, et j'ai un drôle de rapport avec les dents.
Ouais, vous écrivez dessus d'ailleurs.
Oui, j'écris sur les dents des guitaristes célèbres, ouais. Et je vais chercher des dents de requins fossilisées.
Ou même il y a des détails sur des héroïnes où on parle de leurs dents.
Oui. Et donc voilà, j'allais souvent voir Laurent Terzieff jouer au théâtre. La dernière fois, je crois que c'était dans Philoctète à l'Odéon. Je pense que c'est la dernière fois que je l'ai vu sur scène, ou peut-être le Roi Lear. Et il me fascinait, cet homme, oui.
Vous avez fait le cours Florent, vous avez joué au théâtre et au cinéma, notamment dans Fauteuil d'orchestre de Daniel Thompson. Vous avez aussi un petit rôle chez Woody Allen.
C'est ça. Alors, dans les deux films, j'étais coupée au montage.
Ah, pardon.
Donc, je sais pas. Je dois sûrement jouer très mal. Dans Fauteuil d'orchestre, mon nom est au générique. Et c'est un peu une fierté personnelle, puisque au générique, il y a également Sidney Pollack. Mais
ah oui.
On ne me voit que de dos. Si on veut me voir dans Fauteuil d'orchestre, il faut avoir le DVD et chercher dans les bonus scène coupée.
Voilà. Voilà, prévenu, ce sera quelque chose pour les amateurs.
France Inter. La 20e heure. Charlie, 10 ans après.
Ségolène Vinson, avant d'entrer à Charlie Hebdo, vous étiez avocate spécialiste du droit des salariés et plaidiez aussi en correctionnel pour des assistés juridiques. Mais vous étiez trop émotive et il vous arrivait de pleurer devant des juges.
Oui, et les deux fois où j'ai pleuré, j'ai desservi mes clients puisqu'ils se sont retrouvés en prison. Et je me souviens d'une fois où j'ai même réussi à dire que si j'avais été à la place de ma cliente, j'aurais moi aussi enfreint la loi, ce qui est quand même un incident d'audience. Et le président de chambre a voulu faire venir le bâtonnier. Et j'avais Maître Leborgne, qui était un grand pénaliste qui était derrière moi ce jour-là, il me tirait sur les pitoches pour me demander d'arrêter de parler. Et voilà, j'étais une très bonne étudiante en droit. Mais je pense que je n'ai pas été une très bonne avocate.
Et pourquoi le droit alors, puisque vous vouliez être Laurent Terzieff ?
Pour m'ennuyer très fort, et à force de s'ennuyer, avoir envie de faire autre chose. Non, j'aimais beaucoup le droit, vraiment beaucoup. Mais je n'ai jamais considéré que le métier d'avocat et le métier de comédien étaient le même. On a trop d'aplomb quand on est avocat. Et voilà, je me souviens qu'au cours Florent, Monsieur Florent, lors d'un examen... avait dit que j'avais je jouais en drawback, je crois, et que j'avais trop d'aplomb et que c'était sûrement dû à ma profession d'avocate.
Alors en 2007, vous avez rendu votre œuvre d'avocate, vous êtes partie en Corse, travailler comme réceptionniste dans un camping et comme serveuse dans une paillote, et vous y étiez très heureuse, notamment parce que vous y étiez en contact avec la matière.
C'est ça, un jour, j'ai tout quitté, je suis partie vivre en Corse. Et j'aimais y passer les hivers, j'aimais affronter les tempêtes de Méditerranée. Et c'est vrai que je crois que j'ai rarement été aussi heureuse que ces années où j'ai été serveuse dans une paillote. J'ai même fait la plonge, j'étais commis de cuisine et donc réceptionniste. Et voilà, mais pour tous mes proches, ça a été quand même un choix étonnant. Après avoir été avocate pendant 8 ans au barreau de Paris, d'avoir fait de longues études, de décider de tout quitter pour aller vivre... sur une plage de Corse.
Vous entrez à Charlie en septembre 2012 grâce à Patrick Peloux qui avait aimé votre livre « J'ai déserté le pays de l'enfance ». Et vous disiez de la joyeuse bande du journal « Il rit de tout quand je pleure d'un rien ». Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on descende un peu dans les abysses pour nous diriger vers les lueurs un peu plus tard ?
Bien sûr, oui.
Alors, je rappelle les faits, mais je crois que tout le monde les a, surtout après cette journée, le 7 janvier 2015. Ségolène Vinson, vous êtes épargnée lors de l'attentat par l'un des tueurs parce que vous êtes une femme, bien que ce ne fût pas le cas pour toutes les femmes de la rédaction. Je voulais savoir si vous aviez lu le Coran depuis ce drame, puisque le terroriste l'avait exigé, en vous tenant en joue.
Il l'avait exigé, et quand on sort de ça, et qu'on a été effectivement épargné, c'est la première chose que je suis allée faire. J'ai demandé à une voisine, Aziza, ma voisine du dessus. Au départ, elle voulait me prêter le Coran en arabe et je lui ai dit que ça allait être compliqué pour moi, même si j'ai quelques mots d'arabe dans mon vocabulaire, puisque c'est une des langues officielles de Djibouti. Mais je ne l'ai pas lu en entier, parce que le Coran, comme la Bible ou d'autres textes religieux que j'ai pu lire... En fait, j'y trouve pas les réponses aux questions que je me pose, mais peut-être que je me pose les mauvaises questions. Et par ailleurs, en ayant grandi à Djibouti, c'est quand même mes repères et ma culture. Enfin, j'ai grandi près d'une mosquée et d'un minaret. Ma maison était vraiment très proche et tous les jours, j'entendais les 5 prières, l'appel du muezzin. Donc, je les avais quand même en moi déjà, ces mots de cette religion.
Il y a d'autres lectures que vous avez reçues de gens justement plutôt inattendus. Ce sont des poèmes. Il y en a un de Boris Vian et un de Paul Éluard. Est-ce que vous pourriez développer ?
C'est au premier procès en 2020. Il y a l'un des accusés qui, après mon témoignage, m'a presque prise à partie pour me dire que les mots que j'avais prononcés avaient chez lui, enfin, ça lui avait fait penser à un poème qu'il avait travaillé avec un prof de théâtre en prison, qui était Il casse le monde de Boris Vian. C'est un condamné à mort qui, chaque jour, se met à aimer un détail de la cellule de prison dans laquelle il est enfermé, et qui va même aimer jusqu'à l'acier de sa guillotine. Et à la fin du procès, quand le verdict a été prononcé, et à ce moment-là, en première instance, il avait été condamné à 20 ans de réclusion criminelle, je suis allée le voir dans le box, et il a arraché à un document relié par une spirale deux poèmes qu'il m'a offert. Donc il m'a offert Il casse le monde de Boris Vian, mais également La puissance de l'espoir de Paul Éluard. Et pour moi, c'était au-delà de ce qu'on appelle le pardon ou la réparation. Ça n'avait rien à voir avec sa culpabilité ou son innocence, puisqu'il se déclarait encore innocent. Je sais pas, j'y ai vu un don qu'il m'a été impossible de refuser. Parce que souvent, en fait, dans les procès pénals, c'est ce qu'on recherche quand on est partie civile. On veut une explication et on veut que l'accusé vous voit et comprenne qui est la victime qu'il a en face et le chagrin qu'il lui a causé. Et voilà, donc parfois mon comportement à l'audience a pu heurter certaines autres parties civiles, et je le comprends tout à fait, mais je me dis que chacun fait comme il peut avec ça, et avec son chagrin, sa douleur et ses souffrances, et moi c'est comme ça que j'ai fait, en acceptant ces deux poèmes.
Est-ce qu'il y a un des deux poèmes que vous voudriez lire ?
Bah, je peux peut-être lire le début de La puissance de l'espoir de Paul Éluard. Autant parler pour avouer mon sort. Je n'ai rien mien, on m'a dépossédé, et les chemins où je finirai mort, je les parcours en esclave courbé. Seule ma peine est ma propriété, larmes, sueurs et le plus dur effort. Je ne suis plus qu'un objet de pitié, sinon de honte aux yeux d'un monde fort. J'ai de manger et de boire l'envie, autant qu'un autre à en perdre la tête. J'ai de dormir l'ardente nostalgie, dans la chaleur sans fin comme une bête. Je dors peu, ne fais jamais la fête. Jamais ne baise une femme jolie, pourtant mon cœur, vide, point ne s'arrête. Malgré douleur, mon cœur, point ne dévie.
En 2015, au JDD, vous disiez que vous étiez constamment en hypervigilance, mais que vous aviez fait face au traumatisme sans béquilles chimiques par le MDR, qui a été proposé à des soldats, parfois ayant été traumatisés par la guerre. On est 10 ans plus tard, comment allez-vous aujourd'hui et à quoi ressemble votre vie ?
Je ne sais pas répondre à la question de comment je vais. Je crois que je vais coup-ci, coup-ça. Et ma vie, aujourd'hui, elle ressemble à une vie très simple, une vie de provinciale, donc sous le ciel de Provence. Et c'est une vie vraiment faite de pas grand-chose, d'écriture et d'étendbères et d'oiseaux et de poissons. Et de poulpe. Voilà, c'est... Et en fait, on a souvent tendance à se replier sur soi, d'abord se reconstruire. On se dit, je vais discrètement, sagement cultiver mon petit jardin. Et puis, petit à petit, on s'aperçoit que le jardin, c'est sa rue aussi. C'est sa ville, son département, sa région, son pays, son continent et le monde entier, pourquoi pas l'univers. Et on est rattrapé par ce dehors-là avec lequel on doit faire corps. Et on se rapproche des autres et la nature, notre tempérament nous rattrape. Et voilà, donc je me suis engagée également en politique, mais sur les questions environnementales, écologiques, de l'étang de Berre et du parc marin de la Côte-Bleue. Donc j'ai une vie comme ça, assez simple, de plaisir simple, mais quand même d'engagement politique pour l'intérêt général.
Ça, on va y revenir tout à l'heure, justement, quand on se tournera délibérément vers les lueurs. Il y a deux choses qui m'ont frappée en lisant vos interviews, Ségolène Vincent, c'est que vous avez confié à Libération que vous étiez tendre avant l'attaque et que, en fait, vous l'êtes encore plus depuis. Et vous avez confié aux Parisiens que vous avez arrêté de vous poser des questions depuis cela et que vous avez déposé votre intelligence ce matin-là. Et quand on lit votre roman La Palourde, on voit un abêtissement plutôt bien heureux de l'héroïne. Alors, oui. La tendresse et l'abêtissement heureux, c'est ouais. sûr ça que je voudrais vous entendre.
Alors, il n'y a aucun...
Non, il n'y a aucun rapport entre les deux, c'est simplement que les deux sont surprenants.
Oui, ben, la tendresse, je pense que je suis vraiment tendre et que je le suis encore plus, c'est-à-dire que j'ai eu très peu de colère, et tant mieux, parce que je trouve que c'est fatigant, la colère. Et l'abêtissement, c'est cesser de se poser des questions, c'est-à-dire que, curieusement, vraiment, c'est qu'avant l'attentat, je me posais un milliard de questions, j'étais angoissée, vraiment, voilà, les questions existentielles, comme on est très nombreuses et nombreux à se poser, et soudain, l'attentat intervient, et là, la souffrance, on sait d'où elle vient. On ne se pose pas des milliards de questions sur d'où vient cette souffrance, ce mal à vivre que j'ai. Là, j'avais identifié pourquoi j'étais triste, pourquoi j'avais du chagrin, pourquoi j'avais du mal à vivre. Et ça change tout, en fait. Et je me suis dit, je vais cesser... Enfin, je ne me suis même pas dit, ça s'est fait comme ça. J'ai cessé de me poser des questions et je me suis vraiment, vraiment simplifiée à l'extrême, presque à l'os. Et dans l'abêtissement, c'est aussi revenir à cet état premier de ce que nous sommes, de vivre du simple fait d'avoir cette capacité respiratoire, de respirer et d'être là, présent sur cette planète Terre.
Vous avez témoigné aux 3 procès contre les attentats de Charlie Hebdo. Vous saviez, en tant qu'ancienne avocate, et vous l'avez dit tout à l'heure, qu'en fait, les procès ne réparent pas. Parfois, on n'a absolument pas les réponses aux questions. En revanche, vous dites que ce qui vous a fait du bien, c'était de déposer votre chagrin au pied de la justice.
Oui, en fait, ça c'était au premier procès. Je me suis dit, je dépose mon chagrin. Puis en fait, on le traballe encore après quand même. Mais je me suis dit que c'était bien que l'institution judiciaire, que même la société prenne un peu en charge aussi... bien que je pense qu'elle l'avait déjà fait avant ça, mais me soulage un peu de ce chagrin que cette cour, à ce moment-là, que ça soit de la part des juges du siège ou du parquet, mais même des accusés, des avocats, des parties civiles et de la défense, en prennent un peu leur part. Ouais.
C'était pas étrange de passer de l'autre côté ?
Très, très étrange. Et parfois, comme je disais tout à l'heure, j'ai pu avoir des comportements peut-être choquants pour d'autres parties civiles. Parce
lesquelles
que, parce que quand je voyais que les droits de la défense étaient quand même assez malmenés, j'avais envie d'arracher une robe d'avocat devant moi et de me mettre au travail. C'est-à-dire que j'étais présente quasiment tous les jours, parce qu'on sait que certaines peines vont être très sévère. Ça va être perpétuité, 20 ans. Et c'est quand même en tant que partie civile, difficile d'entendre ces peines prononcées. Et si ces peines sont prononcées parce qu'il n'y a pas d'autres peines que celles-là à prononcer dans ces cas-là, on veut au moins que les débats aient été bien menés et que la justice ait bien eu les yeux bandés, qu'elle n'ait pas eu les yeux bigles ou quilouches ou chassieux, qu'elle ait eu les yeux vraiment, vraiment bandés pour rendre des verdicts pareils. Et tout en acceptant ces verdicts, parce que dans l'échelle des peines, c'est ces peines-là qu'il fallait prononcer.
Il y a 2 coïncidences qui sont très troublantes. Il y a celle dont beaucoup de médias vous ont parlé, Ségolène Vincent, c'est le fait que vous êtes retournée à Djibouti pour la première fois en décembre 2018, et vous n'étiez pas retournée depuis 2014. Et sur le vol retour, se trouvait le commanditaire présumé de l'attentat des frères Kouachi, le djihadiste Peter Sherif, arrêté quelques jours plus tôt, expulsé vers la France. Et l'autre coïncidence étrange, c'est qu'à Djibouti, votre père a lui aussi survécu à un attentat. C'était au Café History le 18 mars 87 qui a fait 12 morts.
Oui.
Qu'est-ce que ça suscite chez vous, ces coïncidences ?
Bah, que le hasard est très farceur, non. Déjà, le fait que mon père ait réchappé à cet attentat-là, je pense que ça m'a permis à moi de réchapper à celui de janvier 2015. Parce que mon père, depuis l'enfance, me parle de cet attentat. Et je savais donc qu'un attentat était possible. Et donc c'est comme ça que, à la première balle tirée, j'ai compris que ce qui se passait et ce qui allait se passer. Voilà. Alors mon père, c'est un attentat à la bombe. Hein. Et ensuite, donc à Djibouti. Et c'est vrai que Djibouti, pour moi, malgré ça, ça restait mon havre de paix, presque mon temple. Et du coup, en 2018, je décide d'y retourner pour m'assurer que les frères Kouachi n'ont pas casser ça, mon pays d'enfance, les amitiés que j'y ai. Et donc je retourne en décembre 2018. Je vais même jusqu'à Obok, où je passe devant les tentes du HCR, des réfugiés yéménites.
Obok, c'est votre lieu favori?
Oui, c'est mon lieu.
La maison de Rimbaud.
Ouais, Obok, c'est mon lieu favori. Et c'est camp de réfugiés par lesquels sera passé Peter Shérif. Et ce jour où je rentre d'une sortie avec les requins baleines et que l'ami chez qui je loge m'apprend que Peter Shérif a été arrêté à Djibouti, je lui dis tout de suite, mais pas quand même pas prendre le même avion que moi, parce que je savais qu'il y avait qu'un avion Air France, une ligne commerciale, et on me rassure que non, qu'il y aura sûrement un vol militaire. Et en fait, donc il prend le même vol que moi, et je le comprends tout de suite dès que je suis à l'aéroport. Et donc, voilà. Et pendant tout le vol, les 7 heures de vol, bah, je n'ai pas dormi, et je voulais vraiment aller le voir, je voulais aller lui parler, je voulais qu'il me parle, en fait. Je voulais autant lui parler que lui me parle.
Vous l'avez fait ?
Non, je ne l'ai pas fait parce que j'avais avec moi des personnes qui m'ont dissuadé de le faire et que sûrement de toute façon on m'en aurait empêché. Et quand je suis arrivée à Roissy, je me suis écroulée et c'était très étrange. Est-ce que symboliquement je le ramenais ? Enfin, parce que vraiment, ça m'a quand même pas mal secouée et je me suis demandé pourquoi je devais me retrouver sur le même avion que lui et pourquoi il avait choisi Djibouti pour se réfugier, pour revenir du Yémen, alors que moi c'est vraiment mon lieu, c'est mon enfance, c'est là où j'ai développé tout mon imaginaire, tous mes rêves, et moi parce que j'en ai rêvé du Yémen. Enfant, je ne rêvais que de ça, de traverser le Bab el-Mandeb pour y aller. Et même enfant, certains à Djibouti pensaient que j'avais des origines yéménites par la couleur de mes yeux. Et donc j'étais très fort attachée à ces rêves de Yémen. Des rêves d'occidental, bien sûr. Hein. Mais voilà, ça fait partie de moi aussi, ça, le Yémen.
On va justement en place à la rêverie et à la poésie dans un instant.
France Inter. La 20e heure. Charlie, 10 ans après.
Ségolène Vinson, on évoquait Djibouti il y a un moment, le pays de votre enfance que vous mettez en scène dans votre roman Courir après les ombres, dans lequel un économiste Paul Deville qui aborde le capitalisme se met à la solde de l'impérialisme chinois et part à Djibouti sur les traces de Rimbaud, votre héros absolu. Et alors il y a quelque chose qui revient souvent dans vos interviews, c'est le mot légende. Vous parlez souvent de légende personnelle ou de légende auxquelles vous croyez, et il y a notamment celle de Rimbaud qui aurait écrit ses derniers poèmes en Afrique.
Oui, c'est un mot que j'aime bien, parce que c'est toujours cette incursion du fantastique presque dans le réel. On construit une légende sur sûrement des faits véridiques, mais après qui se transforment en toute autre chose, peut-être pour même faire de la légende, passer au mythe. Et c'est vrai que quand j'étais enfant à Djibouti, tout était Arthur Rimbaud. Et souvent, là-bas, la rumeur court qu'il n'a pas fait que signer des bons de commande de café ou faire du trafic d'armes, des fusils Le Gros, là-bas, et qu'il a peut-être continué à écrire, et pourquoi pas en langue harari. Et donc voilà, j'imaginais qu'on trouvait un poème inédit d'Arthur Rimbaud dans une vieille épave qui est dans le port de Djibouti.
Qu'est-ce que vous aimez chez lui ?
J'aime chez lui le fait qu'il ait tout arrêté.
Comme vous ?
Oui, presque. Enfin, moi, j'ai pas encore arrêté
d'écrire. À plusieurs reprises, oui. Vous changez de vie.
Oui, on change de vie et la poésie, il a été la vivre pleinement. Enfin, une drôle de poésie, puisqu'il a vendu des armes, mais il a vendu du café aussi.
Vous dites que vous aimez les quêtes impossibles. C'est quoi votre quête impossible ?
Celle du mot exact. Je suis en perpétuelle recherche de précision et d'exactitude. Et je ne sais pas si vous avez vu ce film Premier Contact où des extraterrestres ont un langage. Oui. Et c'est le langage qui permet de courber le temps. Et moi, je me suis mis en tête qu'il devait y avoir quelque part un mot exact qui serait la clé de tout et qui changerait la face du monde, sa façon de tourner. Et je suis en perpétuelle quête de ce mot exact.
C'est beau.
Je ne le trouve pas.
Ça peut être une nouvelle de Borges ou de vous ?
Peut-être.
Là, vous vivez à Martigues ?
À côté de Martigues.
À côté. Mmh. Vous êtes une ancienne en quartier du PCF. Vous colliez des affiches de Robert Hue partout en 95 ?
Oui, alors je collais des affiches de Robert Hue, j'étais en fac de droit à Paris 1, sur les affiches de Jean-Marie Le Pen, feu Jean-Marie Le Pen.
Ah bah oui, disparu aujourd'hui.
Ah oui, disparu aujourd'hui. Et voilà, et je distribuais des tracts de soutien à la Palestine. Donc voilà, en 95, oui, j'étais au PCF, mais j'ai aussi fait un petit tour du côté de la LCR, juste parce que Alain Krivine était le voisin de ma grand-mère à Saint-Denis et qu'il était très très gentil.
Ça te change un peu.
Et donc oui, oui. Donc quand j'étais plus jeune, c'était ça. Mais mes vraies idoles de l'époque, c'était Louise Michel et Auguste Blanqui.
Alors, en parlant de littérature et de politique, vous qualifiez Ségolène Vincent de Balzac de précurseur de Marx.
Bah oui, parce qu'il écrit tellement sur la banque que je me suis dit il devait y avoir une filiation certaine. Bah oui, parce qu'il a quand même dénoncé dans plusieurs de ses ouvrages le système capitaliste, la banque, la bourse et tout ça. Ouais.
Même si vous ne militez plus, vous avez accepté, vous l'avez dit tout à l'heure, la proposition du maire sortant d'entrer dans son équipe, à condition de vous occuper des poissons et des hippocampes. Là, je vous cite, vœu exaucé, vous êtes délégué à l'étang de Berre. Alors, de quoi s'agit-il? Quelle est votre mission? Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO?
Alors, l'étang de Berre, en fait, il y a 10 communes sur le pourtour de l'étang de Berre. Il y a un syndicat mixte qui regroupe ces communes et le département et la région. Et on a pour charge de réhabiliter écologiquement, mais également du point de vue de l'image, l'étang de Berre, qui est quand même le berceau, enfin pas le berceau, mais qui est le deuxième pôle pétrochimique d'Europe, le premier de France. Et par ailleurs, la candidature à l'UNESCO pour l'instant est abandonnée parce qu'on a eu des réponses négatives du ministère de la Transition écologique qui estime que ce site n'est pas remarquable à cause justement de cette présence de la vieille industrie.
Est-ce que ça vous a inspiré, je pense par exemple à Maritima, que vous avez publié aux éditions de l'Observatoire, qui se passe là-bas, ou même à La Palourde, où il y a une usine polluante?
Ouais, alors La Palourde, l'usine polluante, c'est une usine qui produit l'électricité de façon propre, puisque c'est de l'hydroélectricité. Mais là, c'est de l'eau douce, de la Durance, qui perturbe en fait l'écosystème. Ouais.
Je pense à beaucoup de morts violentes dans Maritima. Un écrasement par sculpture, une chute sur pierre pointue, une leucémie. Dans La Palourde, ça commence par la mort des coquillages. Alors là, c'est pas pour y retourner, mais c'est vraiment sur votre littérature, sur votre œuvre. Est-ce que votre littérature a changé après 2015?
Je pense qu'elle a changé, puisque l'attentat et ses conséquences sont en moi, et que j'imagine que mon cerveau également a été ébranlé par cet événement-là. Et qu'il doit en ressortir quelque chose, mais moi je suis très mauvais juge pour savoir ce qui ressort de ce traumatisme dans ma littérature. Et je pense que je suis allée aussi à une écriture presque plus sèche ou maigre, je ne sais pas comment la qualifier, mais je suis allée à l'essentiel, je pense. Enfin, je vais à l'essentiel, il me semble.
Vous avez une passion pour la faune, pour la mer. Vous avez aussi publié Le Caillou au Tripode. Quel minéral aimeriez-vous être?
Là, en ce moment, j'aimerais bien être du safre bleu.
Ah, qu'est-ce que c'est?
Alors, le safre bleu, c'est une roche qu'on a beaucoup sur l'étang de Berre. Et juste parce qu'elle maintient prisonnière des dents de requins fossilisées du Miocène. Mais je pourrais également être quoi? Non, le safre bleu, c'est pas mal. Ou une améthyste de Djibouti. Voilà.
Justement, la faune et la flore à Djibouti, est-ce qu'elle vous manque? Elle est très différente. Qu'est-ce que vous importeriez? Qu'est-ce qui vous manque le plus?
Oh ben, sûrement ce qu'il y a sous la mer. Tous les poissons de la mer Rouge, oui.
Comment vous avez appris le vocabulaire de la faune et de la flore? Vous êtes documenté dans des livres ou vous l'avez appris en vivant parmi eux?
Je l'ai appris dans les livres, mais dans mon entourage, du coup, même politique, j'ai un ami enseignant-chercheur à Aix-Marseille qui est écologue. Et au JPREB, le syndicat mixte qui gère les temps, il y a des océanographes avec qui je fais des sorties, je plonge dans les temps pour changer des balises, je fais des campagnes de mesure de palourdes avec eux et je me renseigne beaucoup auprès d'eux.
Je vous ai demandé une découverte pour les auditeurs, Ségolène Vincent, et vous avez choisi « Vivre en arsenic » de Claire Dutré chez Actes Sud, une enquête éco-poétique sur une vallée polluée de l'Aude.
Oui, j'ai choisi ce livre parce que je ne connaissais pas Claire Dutré, qui est professeure en fac justement en éco-poésie. Et c'est dans la collection Voix de la Terre chez Actes Sud. Et c'est un livre qui m'a beaucoup marquée. C'est sur une vallée de l'Aude dont les sols sont entièrement pollués par une ancienne usine d'or et d'arsenic. Et c'est sa façon d'écrire qui est assez étonnante, déroutante, parce que c'est une enquête sur cette vallée de l'Aude, mêlée de poésie, de poèmes que lui inspire la nature et cette nature polluée. Et j'ai trouvé ça brillant et fascinant. Et je l'ai rencontré et je lui ai dit, en fait, les politiques devraient, plutôt que d'avoir des rapports de cabinet d'expertise, avoir ce genre d'ouvrage entre les mains pour prendre leurs décisions concernant l'environnement. Je trouve ça... moi, ça m'a vraiment retourné et j'ai trouvé ça très intelligent. Et je m'étais dit, il faut que tous les décideurs locaux et nationaux aient ça entre les mains. Voilà.
Je profite de votre érudition poétique concernant la faune et la flore. J'aimerais bien que vous nous fassiez découvrir une créature de votre choix.
Une créature de mon choix que je connaîtrais parfaitement.
Oui, ou pas parfaitement, mais...
Alors, la Myosopsis lady.
Oh, waouh.
Voilà.
C'est une lady, ça, c'est
lady.
Évident.
Non, c'est L-E-Y-D-I. Mais en fait, ça ressemble très fort à une méduse, mais il s'agit en fait de plancton. C'est un cténophore. Alors, cténophore, on pense que ça porte la lumière, mais en fait, c'est parce que ça porte plein de cils.
Et cils comme les cils
comme
des
cieux. Comme nos cils à nous, mais voilà. Et ça dérive dans l'étang de Berre et ça phosphore un peu. Et c'est une espèce exotique, invasive, mais pratiquement pas envahissante. Et elle vient du golfe du Nouveau-Mexique. Et on ne sait toujours pas comment elle a pu arriver là. Alors, l'hypothèse privilégiée, c'est les eaux de ballast des pétroliers qui sont venus déposer leur pétrole à Berre-l'Étang. Et donc voilà, c'est assez beau. Et c'est un organisme très simple et qui s'auto-régénère, qui s'auto-mange, qui s'auto-consomme quand elle a faim.
Beaucoup de rapports différents avec soi-même.
Ouais, ouais. Donc voilà, c'est l'espace que je vous ai fait découvrir.
Merci beaucoup. Et on écoute tout de suite votre choix musical.
C'est le silence qui se remarque le plus. Les volets roulants, tous descendus. De l'herbe ancienne dans les bacs à fleurs, sur les balcons. On doit être hors saison. La mer, quand même, dans ses rouleaux, continue. Son même thème, sa chanson vide et têtue. Pour quelques ombres perdues sous des capuchons, on doit être hors saison. Le vent transperce ses trop longues avenues. Quelqu'un cherche une adresse inconnue. Et le courrier déborde au seuil des pavillons. On doit être hors saison. Une ville se fane dans les brouillards salés. L'océane est trop près. Les tourments la condamnent aux écrans de fumée. Et personne ne s'éloigne du quai. prendre les murs, les jardins, les rues. On pourrait mettre aux boîtes aux lettres nos prénoms dessus. Ou bien peut-être un jour les gens reviendront. On doit être hors saison. La mer, quand même, dans ses rouleaux, continue son même thème, sa chanson vive. Oh, où es-tu? Tout mon courrier déborde au seuil de ton pavillon. On doit être hors saison. Une ville se fane dans les brouillards salés. Oh, la colère océane est trop près. Les tourments la condamnent aux écrans de fumée. Et personne ne s'éloigne du quai.
Francis Cabrel, hors saison, dans la 20e heure sur France Inter. C'est votre choix musical, Sigolène Vincent. Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est une des plus belles chansons de Francis Cabrel et qui me touche à chaque fois. Et parce que moi-même, j'ai la sensation que je passe ma vie hors saison, en fait. Ma vie est complètement hors saison. Voilà.
Sun, I say it's all right.
Sigolène Vincent, vous confiez à Mediapart très récemment que ce qui vous réparait, c'était le soleil, le silence et la mer. Et sur votre compte Instagram, j'ai vu quelque chose d'assez mystérieux. J'ai vu le morceau Here Comes the Sun des Beatles avec la légende doucement, le butor finit de s'écrire et c'est accompagné d'un petit film en triptyque vertical. Et je crois que c'est votre prochain roman au tripode, Le butor étoilé.
Oui, j'aurais pu vous faire découvrir Le butor étoilé.
Alors dites-nous.
Alors Le butor étoilé, c'est une sorte de petit héron tout ramassé, trapu. Et Buffon considérait que son chant d'amour était... trop moche pour permettre au butor étoilé de se reproduire d'une quelconque façon. Et en fait, c'est parce que c'est un oiseau qui s'est fait rare sur les rives de l'étang et qu'il y a un an et demi, quelqu'un aurait entendu le chant du butor, il serait revenu. Et donc, j'ai participé à un protocole d'observation de l'oiseau sans jamais le trouver. En revanche, j'ai trouvé des tritons palmés. Et j'ai voulu faire... Un roman appelé Le butor étoilé sur la quête du butor. Et c'est la suite pour moi du caillou et de la palourde. Donc là, on explore plutôt les airs et toujours une histoire d'amour déçu ou impossible. Et donc, en quête d'air, en quête de vent et en recherche d'amour absolu à travers cet oiseau-là.
Il est aussi question de palourde et il y a quelqu'un qui boude à un moment parce qu'il n'est pas d'accord avec la phrase « Tous les drames se ressemblent » quand il apprend le drame de l'autre et qu'il le trouve nul.
Ouais, c'est vrai. Normalement, tous les drames se ressemblent, en tout cas provoquent des peines similaires, un même chagrin, les larmes sont les mêmes, quel que soit le drame qui les provoque. Mais il y a un personnage qui considère qu'il y a vraiment des drames qui sont plus nuls que les autres.
En parlant des Beatles, en 2021, vous avez publié La canine de George, une rêverie autour d'une dent et de George Harrison. Et vous dites quelque chose de très intéressant à ce sujet. Vous dites qu'en fait, ça vous a fait du bien de vous intéresser à lui parce que vous êtes approché de son mysticisme et vous vous rendez compte qu'avec le temps, vous devenez vous-même de plus en plus mystique. Ça se manifeste comment ?
Ça se manifeste par justement cette... cette relation que j'ai avec le vivant qui est autre que nous, qui est autre qu'humain. Et Et parfois, j'ai l'impression, mais c'est moi qui l'invente, hein, qui l'imagine, que voilà, j'ai ce rapport particulier avec ces êtres-là, et par une façon que j'ai de dézoomer, en fait. Je parlais d'Auguste Blanqui tout à l'heure, mais il a écrit un livre, L'éternité par les astres, et il s'intéressait à l'univers, et comment, en fait, il n'y a pas de chaos en fait, de l'univers, et comment les étoiles s'entrechoquent pour faire des vivants à partir des morts. Et il y a peut-être ça dans mon idée de mysticisme, de m'en remettre souvent à la mort des étoiles, en fait, et de leur lumière, qui met un temps tellement infini à nous parvenir qu'elle demeure vivante quelque part. Entre elle et nous, elle demeure vivante. Voilà, c'était tout simplement ça, mon mysticisme. Un mysticisme d'astrophysicien ou d'astrophysicienne que je ne suis pas.
L'espèce d'abstraction où vivait Gilliatt s'augmentait de la matérialité même de ses occupations. La réalité, à haute dose, effare. Le labeur corporel, avec ses détails sans nombre, n'ôtait rien à la stupeur de se trouver là et de faire ce qu'il faisait. Ordinairement, la lassitude matérielle est un fil qui tire à terre, mais la singularité même de la besogne entreprise par Gilliatt le maintenait dans une sorte de région idéale et crépusculaire. Il lui semblait par moments donner des coups de marteau dans les nuages. Dans d'autres instants, il lui semblait que ses outils étaient des armes. Il avait le sentiment singulier d'une attaque latente qu'il réprimait ou qu'il prévenait.
Ségolène Vincent, vous aimez les classiques, et dans ceux que vous aimez relire, il y a Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo, qu'on entend ici lu par Denis Podalydès. Est-ce que vous voulez dire un mot sur ce livre, ou alors plutôt sur Guerre et paix, Moby Dick, ou un moins connu, La fille du capitaine de Pouchkine?
La fille du capitaine, c'est parce que c'est un vrai souvenir de collégienne, en fait. J'étais pas très bonne à l'école, et ça me désespérait parce que j'étais tellement amoureuse des livres et des auteurs, et notamment de ce livre-là, que je me disais, mais ma prof de français va quand même voir que ma vie, ça sera ça. Et elle le voyait désespérément pas. Et non, mais Les Travailleurs de la mer, ça me... À chaque fois, ça me bouleverse. Et on sait, Victor Hugo, tout ce qu'il a de grandiloquent, et que quand même, sa pieuvre, là, son poulpe, ça ressemble pas vraiment à ce qu'est réellement une pieuvre ou un poulpe. Mais voilà, la fin des Travailleurs de la mer... À chaque fois, ça m'embarque, ça me prend, et je trouve ça beau. Enfin, voilà.
Et une page d'amour d'Émile Zola.
Une page d'amour. Il est terrible, ce...
Bah alors, c'est toujours terrible, Émile Zola, vraiment. Moi, je le déteste personnellement pour ça.
Oui, mais il y a beaucoup de gens qui détestent en plus Zola pour plein d'autres raisons. Il y a quelques années, j'ai relu tous les Rougon-Macquart, si, le premier aussi. Thérèse Raquin est vraiment bien. Mais une page d'amour, c'est... C'est le désespoir, c'est la désillusion, c'est le malentendu total dans l'amour. Et voilà, et je suis tellement désolée pour le personnage féminin, enfin, et pour sa fille. Et voilà, on dit souvent que Zola, enfin, comprenait assez mal les femmes ou les maltraitait dans ses livres. Et il les maltraite parce qu'en fait, c'était comme ça, elles étaient maltraitées, elles sont encore souvent maltraitées. En vérité.
La joie de vivre, vous l'avez lu, c'est l'inverse du titre, c'est terrible.
Oui,
c'est
la joie de vivre également, c'était...
L'héroïne, c'est terrible.
Ouais, c'est Avril Ventura, une journaliste.
Bah oui, je la connais, bien sûr.
Et voilà, elle m'avait conseillé ce livre. Et c'est vrai que Les Jouisseurs, au départ, je voulais l'appeler La joie de vivre, mais comme je n'étais pas Émile Zola et que ce titre lui appartenait, je ne l'ai pas pris. Mais c'est un livre que, avec la mère aussi, qui me touche beaucoup et auquel je tiens.
Et alors, un des livres que vous avez le plus lu et relu, c'est celui d'un homme qui a été diplomate à Djibouti, entre autres, c'est Les Racines du Ciel de Romain Gary. Un petit mot dessus pour clore l'émission.
Alors c'est un livre qui est quand même, quand on le reprend, difficile à lire, je trouve, toute la première partie pour se mettre dedans. Et j'aime sa lettre aux éléphants également. Enfin, ce livre, je trouve que c'est quand même... j'ose dire que c'est un chef-d'œuvre et qu'il est très contemporain. Et Romain Gary, c'est l'auteur que j'ai le plus lu vers la vingtaine. Je m'étais coupé les cheveux comme Jean Seberg. Je portais un t-shirt New York Herald Tribune. Et je voulais le faire sortir de sa tombe. Et c'est étonnant pour quelqu'un de gauche comme moi et qui appartient à la majorité communiste d'aimer à ce point un gaulliste, mais un gaulliste désespéré, voilà, ça donne du talent, je trouve, et j'aime beaucoup cet homme.
Désespéré, intelligent, brillant et humaniste. Merci voilà. beaucoup, Cyprien Vincent.
Merci.
Votre dernier roman paru au Tripode est La Palourde, et le prochain sortira chez le même éditeur le 3 avril sous le titre Le Butor étoilé. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Joseph Ascal, Irma Danich et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Arnaud Caillet.